Bonsoir Charlotte.
Bonsoir Nicolas.
Comment vas-tu?
Très bien, merci.
Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu ta voix sur cette antenne. On rappelle que tu travailles pour la librairie des machines de Lille, que cette librairie a, disons, un partenariat, une entente, désormais presque de longue haleine avec Réplique dans sa forme radiophonique, dans sa forme écrite, puisque Réplique est aussi une revue dont le deuxième numéro sortira fin juin, et que tu nous accompagnes comme ça en présentant des livres que tu affectionnes. Je dirais que c'est pas seulement un accompagnement, mais que c'est aussi un ensemble de conseils que tu nous prodigues régulièrement. On essaie de suivre le plus attentivement possible tout ce qui peut s'écrire sur le cinéma. On va quitter Capricci cependant pour évoquer un éditeur qui fait un travail très intéressant aussi. Ce sont les éditions du Sonneur qui publient de petites choses et l'une est consacrée à Georges Méliès. Et même un ouvrage écrit par Georges Méliès, même si étrangement écrit à la troisième personne du singulier. Et c'est ce livre ainsi que deux autres édités au Sonneur aussi que tu as entre les mains. Charlotte.
Oui, je vais rebondir sur l'aspect cirque que tu mentionnais. En fait, aux éditions du Sonneur, il existe cette petite collection qui s'appelle La Petite Collection, des petits prix pas chers, des textes d'extrêmement grande qualité, beaucoup de classiques, très 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 beau travail que je soutiens vraiment à la librairie des machines dans tous les domaines. Donc là, on a trois petites choses sur le cinéma, dont Les Éperons de Todd Robbins, qui fut la source du film Freaks, la monstrueuse parade. Donc là, on reste vraiment dans cet univers. Et Elephant Man aussi de Frederick Travis, je sais pas très bien comment on dit. Donc voilà le texte qui va inspirer Lynch. Enfin, il existe deux textes sur Elephant Man. Ce texte-là du médecin qui va recueillir l'homme éléphant, qui est très empathique, très beau texte, très émouvant et qui donne vraiment envie d'aller vers le film de Lynch. Mais je pense que Lynch s'est aussi inspiré d'une autre œuvre moins littéraire qui donnait une autre vision moins empathique de l'homme éléphant. Et le dernier titre de cette collection, qui est La vie et l'œuvre d'un pionnier du cinéma, donc écrit par Georges Méliès à la troisième personne du singulier, comme tu le signalais, en 1937, peu de temps avant que Méliès meure. Ce livre a eu trois éditions différentes. Là, on est vraiment au plus proche du texte qui est disponible à la Cinémathèque française, je dirais. Mais j'ai un trou de mémoire, je suis pas sûre à 100%. Mais en fait, on est vraiment proche du texte que Méliès a écrit et qui n'a pas été retravaillé à part de la typographie et des mises en italique et des majuscules enlevées. Donc c'est un texte très très émouvant, vraiment. On est dans le cinéma en train de se faire, comme tu le disais. On a tout ce rapport à la féerie, à la fantasmagorie, à l'illusion, à la magie. On apprend petit à petit comment Méliès va créer le cinéma. En fait, il arrive à l'époque de Louis Lumière, il essaye de lui racheter un des premiers projecteurs. Louis Lumière veut pas, donc il va construire sa première caméra lui-même. Il va partir dans des scènes, aller filmer à l'extérieur, ce qui se faisait pas du tout. Il est vraiment le précurseur, le visionnaire. On est dans et tout ça raconté par lui-même à la troisième personne du singulier. Donc des fois on est embarqué, on se dit. Puis quand on s'arrête de lire et on voit que c'est lui qui nous parle de lui-même comme ça en tant que précurseur, visionnaire, c'est vraiment une lecture très touchante, très réjouissante. Il y a une très belle préface de Jean-Pierre Sirois-Trahan qui va parler vraiment de l'influence des mythes littéraires de Méliès, parce que Méliès écrivait beaucoup les scénarios, il dessinait aussi beaucoup, il était comédien. C'est un mécanicien vraiment de haute pointure qui va être un fouineur. Et cette préface rend vraiment hommage à ce qu'il a pu apprendre de la littérature, des mythes littéraires et à ce que les surréalistes, l'avant-garde littéraire, Apollinaire, vont aussi pouvoir prendre de son travail. Donc il y a vraiment une perméabilité entre les deux univers. Et Méliès, au début, raconte son enfance et il part vraiment de cet ancrage, de cet attachement à la littérature qui va être aussi un déclencheur de toute sa fantasmagorie. Et son lien à l'illusion. il parle aussi de son rapport au public et de sa frustration d'avoir dû faire un cinéma pour les foires tout au début et pour divertir en fait les fables, le burlesque comme tu le disais. Il va être le premier à produire le cinéma en salle avec le rachat du théâtre de Houdin, le magicien. Et du coup, on est vraiment très 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 emporté par dans un autre monde en fait. C'est assez incroyable. C'est un petit livre de 100 pages et ça paraît complètement irréel, quoi. C'est très très beau. L'écriture est assez naïve, mais elle est vraiment très forte.
Elle est tout à fait à l'image de son cinéma, me semble-t-il, en fait. C'est-à-dire peut-être naïve, certes, mais aussi, là encore, comme Ed Wood, pourrait-on dire, même s'il me semble que Méliès était beaucoup plus talentueux et inventif peut-être qu'Ed Wood, il cédait moins à la facilité, mais aussi porté par une vraie conviction en son art. Et on sait que Georges Méliès avait une volonté de contrôle sur son œuvre. Il est peut-être l'un des grands auteurs finalement du cinéma. Ce n'est pas que des films qu'il faisait, il était à la tête d'un empire finalement. Il a fait construire des studios. Le film de Scorsese montre d'ailleurs aussi que sa vie a été marquée ensuite par une certaine déchéance, mais il est le premier empereur du cinéma. Et puisque tu citais l'importance de la littérature, effectivement, de l'écriture, dans son rapport finalement à la création, dans les premières pages, il y revient beaucoup et il veut tout de suite mettre les points sur les i et corriger certaines choses. Il parle de lui-même donc, répétons-le, mais en utilisant la troisième personne du singulier. Je le cite donc. Il commença, à l'âge de 7 ans, ses études classiques au lycée Michelet, situé à Vanves, aux environs de Paris. Ce lycée portait alors le nom de lycée du prince impérial, sous le règne de Napoléon III. À la guerre de 1870, l'établissement étant bombardé par les Allemands, les élèves furent envoyés à Paris au lycée Louis-le-Grand où Méliès continua ses études complètes. Il en sortit en 1879 et en 1880 partait à Blois où il accomplissait son service militaire obligatoire. Nous donnons ce détail pour réfuter certains articles dans lesquels les jeunes du cinéma ont accusé les pionniers de la cinématographie de n'être que des primaires, des illettrés incapables de produire quoi que ce soit d'artistique. Méliès, tout au contraire, eut une formation littéraire, et s'il dut au début faire ce que firent tous ceux qui créèrent la cinématographie, des vues que l'on a qualifiées de pitreries ridicules, de farces ineptes, etc., cela tient uniquement à la première clientèle du cinéma, qui fut une clientèle foraine, ne s'adressant elle-même qu'à des spectateurs incapables d'apprécier autre chose que les farces énormes, les poursuites échevelées et les culbutes ahurissantes. C'est un trait de génie, à mon avis, que d'écrire cette chose-là et d'être capable d'une telle réflexivité et d'un tel recul historique sur un art qui est encore en germe seulement quelques années, voire quelques décennies après. Voilà, donc c'est tout à la fois un manuel, c'est-à-dire que Georges Méliès évoque de manière tout à fait précise, concrète, la façon dont il a fabriqué les effets spéciaux, et ça c'est quand même pas rien, et un tel recul historique qui aussi est traversé par de vraies précisions importantes sociologiques. Effectivement, le premier public du cinématographe, comme on l'appelait à l'époque, eh bien c'était les gens qui avaient pour habitude d'aller au cirque, voilà, de voir des choses foraines. Autrement dit, le cinéma de Méliès n'est même pas encore traversé par la question de la mise en scène, c'est-à-dire que le montage n'existe même pas encore, sauf qu'il l'invente, il y touche comme ça par bribes, puisque beaucoup de ses courts films sont des numéros de magie qui, à défaut de faire appel au camouflage, à la prestidigitation, font appel à de tout bêtes effets de montage, mais tout ce qui est mouvement, déplacement de caméra n'existe pas encore, ça se fera un petit peu après, dans les années 1910-1915. C'est un grand génie, c'était un grand génie que ce Méliès, qui à mon avis n'est pas encore suffisamment traité par la littérature, et ce livre est effectivement une petite merveille.